Sensation, Sensation Normandie, l'atelier radio.
Bonjour, bienvenue sur Sensation Normandie. Nous sommes Léa et Paco de la première ES4 du lycée Gustave Flaubert de Rouen. Nous vous parlons de l'opéra de cette ville.
Parlons ensemble de l'art qu'est l'opéra. L'opéra est une œuvre à la fois musicale et théâtrale qui mise avant tout sur l'aspect sonore avec les chants, la musique, etc.
Il serait intéressant de se pencher sur l'aspect visuel de l'opéra, car il est également primordial avec le décor et tous ses éléments. Parlons tout d'abord des décors. Et pour cela, nous accueillons Judith et Jeanne.
Dans le cadre d'une sortie scolaire, nous avons visité l'Opéra de Rouen, bâtiment mythique de la ville, aussi bien du côté des spectateurs que celui des artistes. Cela nous a amené à nous questionner sur les décors, c'est-à-dire sur leur fabrication, mais également leur coût, et comment les metteurs en scène les choisissent. Judith vous parle de la fabrication des décors.
De nombreuses personnes participent à la création des décors d'opéra. Il existe de nombreux métiers et un grand nombre d'étapes lors de la création de ces derniers. Tout d'abord, un an avant la première du spectacle, le metteur en scène et son décorateur présentent la maquette du décor à toute l'équipe, pour que celle-ci soit approuvée ou non. Cela nécessite donc une longue réflexion pour créer quelque chose d'original et qui correspond bien à la pièce qui va être représentée. Ensuite, vient la modélisation du décor. Parfois, il en faut plusieurs pour une seule pièce. Il y a des dessinateurs, mais aussi des techniciens et des ingénieurs qui sont chargés de la conception de ces décors tels qu'ils seront construits. Ils dessinent également les plans de fabrication destinés à l'atelier. Il faut imaginer les décors, faire attention à leur taille pour qu'ils rentrent dans tous les théâtres où se produira la pièce, ce qui peut être parfois une véritable contrainte. Il faut également choisir les matériaux qui les composeront. Enfin, vient la validation des échantillons par rapport à la maquette d'origine. C'est le décorateur qui s'occupe de cela. Il faut donc parfois les remodifier, car ils ne correspondent pas complètement aux attentes. Jeanne, que peux-tu nous dire sur les facteurs nécessaires à la création des décors ?
Plusieurs choses, comme la taille du théâtre, le temps que leur création va prendre et surtout leur budget. Car fabriquer un décor peut être très cher. Afin de créer un décor digne de ce nom, il faudra acheter de la peinture, mais aussi du bois pour réaliser les différents panneaux ou encore des tissus pour donner un effet de drapé. Tout ce matériel coûte donc cher et c'est pour cela qu'il faut y faire très attention afin de les réutiliser dans d'autres opéras.
Il peut être captivant de voir tous les aspects des costumes. Nous retrouvons donc Louise qui va nous en parler plus en détail.
Quelles sont les choses importantes à savoir sur les costumes à l'opéra ?
Le costume à l'opéra a un rôle très important car il doit faire ressortir le caractère des personnes et donner des informations sur ce dernier. Au XVIe siècle, le costume ne représentait pas le caractère du personnage, car ils étaient excentriques. Ils représentaient la richesse de la cour. Le réalisme des costumes n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Comme a dit le créateur Christian Lacroix, le costume doit parler dès l'entrée en scène des comédiens, des danseurs ou des chanteurs. Le costume, c'est une sorte de seconde peau dont l'acteur doit se vêtir pour bien représenter son personnage. L'acteur doit être à l'aise dans son costume et ne doit pas être trop serré ni gêné. Le costume est conçu spécialement pour chaque chanteur en fonction de sa morphologie, mais aussi en fonction des contraintes de l'opéra. Il est donc nécessaire qu'il y ait une bonne relation entre le chanteur et le costumier pour que le costume soit le plus parfait possible. La confection du costume à l'opéra se déroule donc en plusieurs étapes. Le créateur ne doit pas penser qu'au budget, mais aussi aux attentes du metteur en scène. Le costumier doit penser à l'éclairage pour que les couleurs ressortent bien une fois sur scène. Si le directeur du théâtre est d'accord avec les propositions, le costumier peut commander les matières et commencer à dessiner les tenues. La confection des costumes se fait de façon artisanale par les costumiers et les assistants. Ils passent beaucoup de temps à assembler les pièces ensemble et les heures de travail coûtent donc évidemment plus cher que les matières premières dans un atelier. Pendant la générale piano, les acteurs s'entraînent en tenue, ce qui permet aux créateurs de voir les défauts des tenues. Quant aux acteurs et aux metteurs en scène, ils peuvent donner leur avis et demander certains changements. Le costume est un élément essentiel à l'opéra, car il apporte toutes les informations nécessaires que le public a besoin de savoir sur les différents personnages.
Merci Louise. Continuons notre émission avec la chronique de Juliette et Amandine. Elles vont nous parler de la mise en scène.
Comment le metteur en scène trouve-t-il l'inspiration et comment se passe la mise en scène de l'opéra ?
Il faut savoir que trouver l'inspiration pour reproduire différentes scènes théâtrales ou romans écrits en un opéra est une chose plutôt compliquée et qui demande beaucoup de temps et de personnes. car au-delà d'imaginer une mise en scène, il faut aussi la mettre en scène, c'est-à-dire placer les décors, gérer le son, l'orchestre, etc. Chacune de ces choses joue un rôle important. Pour vous en parler, je me suis inspirée de Patrick Chéreau. Il était connu pour ses nombreuses mises en scène à l'opéra, mais aussi au théâtre et au cinéma. Il était également scénariste, producteur et acteur français. Le fait d'adapter une œuvre en un opéra permet de montrer son actualité. Actualiser et moderniser une œuvre peut attirer de nouveaux spectateurs. Finalement, l'inspiration est intellectuelle. Le metteur en scène peut lire une œuvre de base et se faire lui-même ses propres idées de décor et de costume. Et après, libre à lui de changer un peu le texte, de choisir ses chanteurs, etc. Amandine, peux-tu maintenant nous dire sur quoi se concentre le metteur en scène ?
Sur l'aspect visuel d'un spectacle, sur les déplacements et les mouvements des artistes sur scène. Il indique le comportement qu'ils doivent adopter pour être le plus proche de ce qu'ils souhaitent transmettre au public. Quand un metteur en scène monte un opéra, c'est une certaine vision de l'œuvre qu'il propose au public. Ce n'est que depuis le début du XXe siècle, et surtout à partir des années 1950, que l'on fait appel aux metteurs en scène de théâtre. Certains ont marqué une époque, comme Patrick Chéreau avec son Ring de Wagner, où il met en scène les quatre opéras de la tétralogie du compositeur allemand. Dans la mise en scène, ce sont aussi les décors qui sont très importants. Ils sont créés par le scénographe, décorateur qui crée les décors sur des maquettes, puis il coordonne l'avancée de leur réalisation en respectant les contraintes budgétaires, techniques et scéniques. La mise en scène regroupe plusieurs corps de métiers pour les décors, mais d'autres métiers sont utilisés comme les costumières pour les costumes des artistes ou encore les techniciens pour les effets de lumière.
Que serait un opéra sans ses nombreux instruments et son acoustique ? Matteo et Brandon vont nous l'expliquer dans une nouvelle chronique.
C'est comme un gâteau d'anniversaire censé bouger. Ces deux éléments en sont la base. L'opéra bénéficie d'un registre très enrichi en allant de compositions lyriques, symphoniques, baroques ou en passant par des créations contemporaines. On y retrouve aussi bien des spectacles d'œuvres anciennes que des œuvres nouvelles. Les instrumentistes sont donc obligés de s'adapter à toutes les époques et à tous les styles de musique. Ils peuvent très bien jouer du Mozart, que d'accompagner un artiste de notre époque comme Mika ou Grand Corps Malade.
La grande qualité des instrumentistes est d'être polyvalent pour accéder à un répertoire large de styles. Un opéra se compose d'une multitude d'instruments, tous plus différents les uns que les autres. Ces instruments sont répartis en trois types de familles, cordes, vent et percussions. Ces musiciens sont donc disposés en éventail pour une meilleure qualité d'écoute pour le public et qu'ils puissent voir les instructions du chef d'orchestre. À l'Opéra d'Oran, l'orchestre se compose de 80 instrumentistes regroupés par famille et disposés en fonction de leur force de jeu. Cette disposition n'est pas faite au hasard. Elle permet une meilleure acoustique mise en valeur par la structure de l'opéra. Large volume de la salle et mur en bois qui permet d'éviter les échos. Sans son orchestre et son acoustique, l'opéra ne serait pas ce qu'il est.
Et maintenant, Mathieu, dis-nous ce qu'est un topper.
Lors d'un spectacle d'opéra, il y a tout le côté visuel et audio, avec les décors, l'orchestre, les chanteurs, les costumes, etc. Mais pour le bon déroulement de l'événement, il y a toujours quelqu'un derrière, travaillant dans l'ombre, veillant donc à ce que tout se passe comme prévu. Le topper, qui est la plaque tournante de la représentation. Comme son nom l'indique, le topper donne des tops. C'est celui ou celle qui indique à toutes les équipes, à tous les corps de métiers présents pour le spectacle, le top des différentes actions à effectuer. Équipé alors d'un casque, le topper est en contact permanent avec toutes les équipes grâce à son matériel technologique. Donner les tops pour la lumière, pour un éventuel changement d'ambiance lumineux, les tops pour les entrées et sorties de certains acteurs, les tops pour les changements de décor et tout ce qui va avec. Il possède donc tous les plans de l'opéra, il sait où chaque décor apparaît, en bref, il connaît le moindre événement de ce qui se déroule pendant la représentation. Les toppers travaillent donc plusieurs mois à l'avance en assistant et assurant le bon déroulement des plusieurs répétitions. Ils établissent un rapport détaillé sur un quelconque support de notes de tous les tops à donner à des moments précis qu'ils perfectionnent à leur façon pour mieux se repérer pendant le déroulement du spectacle. Plus les répétitions avancent, plus on entre dans le réel, jusqu'à la véritable représentation où il devient l'élément presque le plus important de cette prestation artistique.
Maintenant que nous savons ce qu'est un opéra et que nous avons vu l'envers du décor, Mohamed et Hugo, quelle est l'histoire de l'opéra de Rouen ?
L'histoire du théâtre des arts est une des histoires les plus rocambolesques de Rouen. Le premier théâtre des arts fut construit par l'architecte François Quérol entre 1774 et 1776. Il était situé à l'angle des rues Campon et Charette, inauguré en 1776 avec le site Corneille. 10 ans après, il brûla dans un incendie. Un nouveau bâtiment émergea alors, construit par l'architecte Louis Sauvageau. sur les ruines du précédent, il fut inauguré en 1882. Celui-ci brûla de nouveau, mais partiellement cette fois-ci. Les représentations continuèrent pendant la guerre. Un bombardement américain y met fin en 1940.
La ville de Rouen le reconstruisit en bas de la rue Jeanne d'Arc. Mais cette reconstruction a dû attendre la signature de la Convention des dommages de guerre pour que commencent les études. Il fut reconstruit entre 1952 et 1962 par Jean Maillard, architecte de formation. Les plans furent entièrement revus à la lettre. Les travaux furent interrompus en 1954, dû à une réduction de crédit. Puis, finalement, l'inauguration eut lieu le 11 décembre 1962 en présence de l'ancien maire de Rouen, M. Bernard Tissot.
Merci de votre écoute. Vous pouvez retrouver des informations complémentaires sur opéraderouen.fr. Vous pouvez réécouter également cette émission en podcast sur le site radiosensation avec un s.fr. Au revoir et à bientôt sur Sensation Normandie.